Alors, avant de commencer, pendant que tout le monde s'installe, je tiens à faire une espèce d'avertissement préliminaire qui est indispensable à la bonne tenue de ce qui va suivre. Nous sommes tous ici des gens sérieux, il y a limite austère. D'ailleurs, on a failli inviter Paul Auster pour cette table ronde. Donc, au sein d'un festival qui est bien connu pour son absence totale de sens de la dérision. Donc, nous sommes conscients de l'extrême gravité d'un sujet comme le monde imaginaire et des risques potentiels de débordement vers les formes d'hilarité de mauvais aloi, et en particulier dans le public. Donc d'abord, je prendrai les noms, et puis ensuite, je vais orienter cette conférence sur l'humour de manière à éviter tout ricanement intempestif, et je vais d'ailleurs le prouver. Bon. Autour de cette table, il y a donc diverses personnalités extrêmement peu désopilantes, dont on se demande ce qu'elles foutent là. Et je vais commencer par mon voisin de droite, John Lang. Alors déjà, alias Pen of Chaos. Donc c'est le mec déjà qui parle lui-même en anglais pour éviter d'être compris. Bon. Qui est musicien, qui est auteur et web designer, qui est né à Douarnenez le 2 juin 1972, qui ne s'invite pas.
C'est faux.
Et c'est déjà en plus marqué sur le truc du site, donc ça prouve bien qu'on est dans un festival sérieux, qui est surtout connu pour l'aventure de Naël Buck, donc des albums de BD, 4 albums totalement inécoutables sous forme CD, et un concert qui aura lieu ce soir et auquel j'ai assisté déjà un certain nombre de fois. Alors j'ai une question pour toi, John, qui est quand même importante. Quand à Troll et Légendes, il y a des milliers de gens qui reprennent sur tes exhortations « poulet, poulet, piou, piou, piou », est-ce que tu te sens devenu un véritable leader d'opinion?
Oui. Alors c'est très intéressant d'ailleurs parce que on se trouve en phase avec un vrai moment d'aventure. Voilà. Et moi, ça m'a fait quelque chose, mais je pense à tous ces autres groupes qui, eux, étaient anglophones et qui ont eu droit après à notre public qui leur faisait à eux « poulet, poulet, piou, piou, piou ».
Est-ce qu'ils le faisaient en anglais?
Non.
Mais personne n'a chanté « chicken, chicken, piou, piou, piou ».
Non.
Mais juste un attends, quand tu dis ça, tu le penses vraiment ou...
Oui.
Poulet, poulet, fin.
Oui, je suis le poulet.
D'accord. Et donc, tu l'écris véritablement dans l'interview. Écoute, si c'est intéressant, on y reviendra. Je vais quand même par galanterie parler d'Audrey. Audrey Français, donc. Alors, ce qui est intéressant, là, je cite exactement la biographie qui est sur le site. Ça dit, Audrey Français connaît d'abord plusieurs réussites avec des romans pour la jeunesse. Alors, on notera le d'abord, qui laisserait sous-entendre qu'après ça se gâte. Mais c'est extraordinaire, c'est vraiment écrit comme ça, hein, je veux dire. Bon, je m'entraîne. Heureusement, c'est pas vrai.
Non, ça va, je vous rassure.
Ça va, c'est très bien. Bon, voilà. Donc, vous avez écrit un certain nombre de choses et vous avez créé les éditions d'Octobre avec votre époux,
Pierre,
en 2004. Et là, vous parlez d'une totale liberté de création, notamment en littérature adulte. Ce qui vous permet de mettre des gens qui sont, comme vous dites, des enfants au pays des elfes, de l'esclave sadomaso, d'Amazon lesbienne, de sorcières tourmentées, de promeneurs rêveurs, de mycologues passionnés, ces gens avec des champignons, ça, et de nymphes estoyeurs.
Bon, c'est bien. Tout à fait.
D'accord. Bien. Donc vous êtes en fait un chef d'entreprise familial.
Oui, désormais, oui, à la base j'étais auteur, et justement, on a décidé de créer nous-mêmes nos romans pour pouvoir les suivre du bout d'un bout à l'autre.
Et le fait de créer, je sais pas, de devoir payer l'URSSAF tous les trimestres, ça vous inspire des sentiments joyeux ou...
Ben non, comme personne, mais bon, le fait de payer l'URSSAF tous les trimestres, non. C'est pas la partie la plus amusante du boulot, quoi.
Et quelle est justement la partie la plus amusante du boulot?
Alors, tout d'abord, pour nous, c'est d'écrire, parce qu'à la base, on est écrivain, d'écrire ce que l'on souhaite sans censure, puisque nous sommes nos propres éditeurs, et ensuite de publier les romans qu'on aime bien. Donc, Le Donjon de Nalbach,
ouais.
On a la chance de pouvoir le publier, on est super contents parce qu'on était des fans de la première heure. Donc voilà, le fait d'éditeur, ça permet une super grande liberté, quoi. Bon, après, évidemment, il faut bien gérer, mais c'est comme tout le monde, quoi. C'est comme tous les chefs d'entreprise.
Bah écoute, votre voisin qui est Antoine Bueno est écrivain, bon, mais heureusement pour lui, il a un vrai métier, puisqu'il est l'auteur de 4 romans et il écrit pour le théâtre, et il vient justement de sortir un livre sur un essai sur l'analyse critique et politique de la société des Schtroumpfs.
Oui,
ouais. Pour bien qu'il y ait des vrais sujets.
Oui, alors c'est un sujet extrêmement sérieux, oui, ça s'appelle Le Petit Livre Bleu, c'est sorti en juin dernier. Et alors que je ne m'y attendais pas du tout, ça a suscité une polémique, des controverses schtroumpfesques absolument hallucinantes. Et puisqu'on parle d'humour, au début, je m'interroge sur la nature biologique du schtroumpf. C'est quand même important, hein, on parle de ces petites créatures, mais on n'en sait pas grand-chose. Et on sait juste que les schtroumpfs sont dits hauts comme 3 pommes. mais sans aucune précision sur la nature des pommes utilisées pour effectuer la mesure. Donc je m'interroge, je fais une petite enquête maraîchère, je m'aperçois qu'il y a des petites pommes, 5 cm de diamètre en moyenne pour les rainettes, des grandes pommes, 10 cm de diamètre en moyenne pour les golden. On peut donc évaluer la taille du schtroumpf entre 15 et 30 cm. Et là j'ai une universitaire, une vraie de vraie, qui écrit un article absolument incendiaire sur ma gueule, en disant que « haut comme trois pommes » est une expression imagée à ne pas prendre au premier degré. Donc voilà, l'humour dans l'imaginaire.
C'est carrément le pépin, là.
Pourtant, c'est assez trop dur, l'expression, ben, je sais pas. C'est...
On essaie de garder son sérieux. Moi, ils m'ont pris là parce que je suis capable de raconter ce genre de conneries en restant tout à fait imperturbable. C'est un métier, hein. Et alors, j'en ai un, là, ici, lui, il fait des petits dessins. Ça, c'est extraordinaire, ça. Et alors, il fait des petits dessins sur Star Wars, en plus. Alors, ce qui est un truc, moi, à mon avis, il y a des gens avec des sabres laser qui vous attendent à la sortie des festivals, c'est pas possible.
Parce que... J'ai très peur quand je vois ce t-shirt.
Non, parce que quand je vois des dessins où il y a des Luke Skywalker qui enfoncent des légumes dans des orifices divers d'un personnage à peluche, on se demande, vous avez droit à quoi? Vous avez droit à des plaintes de la Société protectrice des animaux, des agents de Star Wars, de Lucas? Je sais pas, les fans de base vous attaquent à coups de pierre, non?
Les fans de base n'ont a priori aucune connaissance de mon travail. Je pense que c'est quelque chose qui s'adresse à un public qui est femme et qui n'est pas un public qui s'accrabille. Quant au fait d'intégrer des légumes dans les peluches, le statut d'auteur n'étant pas un statut professionnel pour moi, en fait je suis prof à la base, donc je connais vite. Il s'agit de pratiques que j'expérimente en cours avec des étudiants.
Ceci dit, la carotte dans le bonhomme de neige, c'est un grand classique, hein.
Oui, mais en général, on met la pointe qui dépasse. Enfin, je veux dire, c'est... Là, en particulier, tu verrais la manière dont tu fais la cuisine.
Je ne sais pas comment tu vas te sortir de ça.
Ah ben, je vais aller au charbon, il n'y a pas de problème. Bon, je vais aller. John, j'ai remarqué que dans les CD, enfin, j'ai remarqué, on me l'a fait remarquer, il y a toujours une page à pourrir. C'est un endroit dans lequel on a le droit de faire une dédicace en pourrissant totalement la personne qui a eu la bêtise d'acheter le CD. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de dédicaces dont tu es très fier et dont les gens n'osent pas montrer le...
Ah oui, alors ouais. Alors là, la page à pourrir, c'est parce que bon, moi j'avais fait partie de groupe avant, pressé nos CD innocemment, et un jour quelqu'un vient nous demander une dédicace. Et on se rend compte qu'il n'y a pas d'endroit pour la faire, parce qu'un CD c'est un livret où il n'y a pas beaucoup de place, donc on met plein de choses dedans. Puis là on s'est dit, on va faire des places pour ça. Donc, voilà, c'est l'utilité de la page à pourrir. Moi, ce qui m'est arrivé de très bien en dédicace, c'est que j'avais ma boîte à chiantos, qui est une boîte à insultes automatique. J'utilise de temps en temps, donc les gens agitent et ça leur donne leur dédicace en fait, qui est souvent une insulte. Et bon, on peut tomber sur des trucs graves, voire même très graves. Le truc, c'est que des fois, il y a des gamins qui viennent, qui ont 10 ans, 12 ans. Alors bon, ils veulent quand même agiter la boîte à chiantos, mais c'est pas vraiment pour eux. Donc ils le font quand même, et j'en ai un qui est venu. Alors malheureusement, j'ai pas pu retranscrire dans la page à pourrir sa dédicace. Parce qu'il y avait ses parents derrière, comme ça, et puis le gamin, il fait « Ouais, je vais agiter la boîte à chiantos !» Et hop, il prend la boîte et ça lui dit « Ton père coiffe des poneys en short rose !» Et alors, le père derrière, il fait « Alors, qu'est-ce que t'as eu ?» Et lui, il fait « C'est pas important !» Du coup, j'ai mis autre chose. Il y a aussi, pareil, le gamin qui avait sa mère derrière lui, où il a eu « Ta mère couche avec Sauron !» Alors, pareil, « Qu'est-ce que t'as eu ?»« Non, non, rien !» Heureusement, la boîte porte pas loin.
Et Audrey, quand vous éditez des livres de quelqu'un comme ça, est-ce que vous prévoyez, je sais pas, des espèces de dédicaces automatiques à barrer ou des...
Ah, c'est une bonne idée à laquelle on n'a pas encore pensé, pourquoi pas. Non, on laisse John agir avec sa boîte à chiantos. Il a beaucoup de succès.
Et là, ses piles sont mortes.
On l'a trop utilisé, en fait, la dernière fois qu'on t'a vu.
Donc vous vous rendez compte quand même que l'humour, c'est avant tout une fonction de secouage et de pile. C'est ce que tu essaies de nous dire, et de poulet. On commence à se diriger vers une espèce de définition de ce que peut être l'humour qui est particulièrement intéressante. Je me demande comment on arrivera à la faire fonctionner jusqu'à la fin. En tout cas, c'est pas mal.
Oui, mais alors, juste pour rebondir sur ce que tu disais pour les fans de Star Wars, de toute façon, depuis qu'il y a eu Star Wars Special Holiday, ils peuvent rien avoir de pire. Donc ils viendront pas l'embêter.
C'est pas ça. Il y a quand même eu Fanboys.
Donc, non, mais Star Wars Special Holiday, le problème, c'est qu'il y avait quand même les acteurs de Star Wars dedans. Donc, c'était quand même... C'est, si vous ne connaissez pas, c'est une émission de Noël qui dure plus de 2 heures, qui a été faite entre le premier et le deuxième épisode, enfin, le 4 et le 5e, à l'époque. Et c'est absolument ahurissant de débilité, mais c'était fait pour être sérieux. Enfin, c'était pas fait pour être nul, mais c'est nul. Voilà. Et depuis que les fans ont vu ça, de toute façon, les vrais fans de Star Wars, on peut plus rien leur faire de pire. Donc voilà. Parce que quand même, Princesse Leia qui chante en pleurant, l'amour international et interstellaire en étant collé à Chewbacca qui pleure aussi. Voilà, des trucs comme ça. Je n'ose pas en parler parce que je vais pleurer aussi.
Et Antoine, toi, tu travailles au Sénat, tu fais de la politique.
Mais ça, c'est pas drôle du tout.
Oui, mais justement, ouais. Est-ce que, par exemple, tu vois des comportements sénatoriaux, si je puis dire, qui te rappellent certains contenus d'albums des Schtroumpfs, ou inversement? Est-ce que tu penses qu'il y a une sociologie qui est applicable à des gens de cet âge-là?
Alors là, c'est moi qui sais pas comment je vais me sortir de cette question. Alors,
c'était le but.
Ouais, c'est bien foutu. Hein. Donc c'est vrai que moi, je suis complètement schizophrène puisque j'ai 2 activités qui n'ont absolument rien à voir. Je travaille au Sénat, je m'occupe des questions sociales, européennes et culturelles. Je peux vous dire que c'est pas rigolo du tout. Donc j'écris beaucoup de discours. Il y a des choses aussi extrêmement techniques. Ça, c'est le jour. Et puis la nuit, je fais des conneries. C'est-à-dire que j'écris mes livres, notamment ma théorie sur les Schtroumpfs, mais pas que. Je suis chroniqueur sur Inter. Peut-être que vous avez eu l'occasion d'écouter. C'est l'émission de Giordano qui s'appelle Les Affranchis, qui a remplacé celle de Stéphane Bern. J'enseigne l'utopie à Sciences Po, ça aussi c'est quand même assez marrant. Enfin, toutes ces choses-là qui sont a priori moins sérieuses, bien que en réalité, à mon avis, elles soient beaucoup plus sérieuses. Mais pour revenir au Sénat, alors les seules choses un peu rigolotes que je connaisse concernant le Sénat, c'est des interrogations, des devinettes sur les moquettes. Est-ce que vous savez pourquoi les moquettes du Sénat sont épaisses? Eh bien, c'est pour amortir le bruit de chute des corps. Et pourquoi les moquettes du Sénat sont rouges? C'est pour mieux effacer les traces de sang. Donc, ça vous donne une petite idée de ce qui peut se passer sous les ordres de la République. Et quant à faire un parallèle entre les Schtroumpfs et le Sénat, ça, c'est un petit peu plus délicat dans la mesure où, par exemple, les Schtroumpfs, en tout cas dans mon analyse, s'opposent en antidémocratie. Vous avez ça dans le deuxième album, qui est le Schtroumpfissime, où les Schtroumpfs font une très très mauvaise idée, c'est organiser une campagne électorale pour remplacer le grand Schtroumpf qui a dû s'absenter. Donc ça tourne à la quelques Schtroumpfi, et il y en a un qui a la fausse bonne idée de faire des promesses à tout le monde, ce qui pourrait d'ailleurs nous rappeler quelque chose dans le contexte actuel. Et évidemment, il rafle la quasi-totalité des voix du village, et dès qu'il est élu, il se fait appeler Schtroumpfissime, ça devient un dictateur abominable, il se fait constituer une garde prétorienne, se réduit son peuple en esclavage pour se faire ériger un palais. Donc tout ça, évidemment, est peu propice à la démocratie, donc il y a un décalage entre ce que moi j'observe, un vernis démocratique au Sénat, et ce que Peyou a mis en place à son corps défendant, puisque lui, il s'est surtout amusé en faisant cet album, dans les Schtroumpfs.
Je le pense aussi. Audrey, parmi les livres que vous écrivez et les livres que vous publiez, y a-t-il des moments où vous avez le sentiment que vous avez un type qui écrit des histoires absolument hilarantes et qui, dans la vie courante, n'est pas drôle du tout, ou l'inverse?
Alors là, non, pas du tout. Pas du tout, du tout.
Il y a toujours une adéquation entre le héros...
On a publié, en fait, que deux séries humoristiques, donc dont Journal Buck, qui est hilarant dans la réalité, comme dans les romans. Et puis un roman de mon frère, de Pascal Français, qui est une parodie de Shakespeare, qui s'appelle Luxeur le Rouge, et mon frère est très sérieux à la base, et c'est un peu un exutoire en fait. Parfois l'humour sert d'exutoire.
Et alors votre blog, vous Thierry, c'est un exutoire ou c'est juste quelque chose qui a débordé de toutes proportions?
Non, c'est l'école, si on vous passe. C'est les cours. Hein.
Combien de tronçonneuses avez-vous droit par an au niveau de l'éducation nationale?
On travaille à la Meuleuse.
À la Meuleuse.
Après,
c'est
la plus jouissif. Non, que dire. Moi, le blog que j'ai ouvert en l'occurrence en 2009, c'est un peu un accident de parcours. C'est pas du tout mon univers à la base. Je suis pas auteur de bande dessinée. Je ne suis pas auteur de comics non plus. Moi, je suis d'abord peintre et graveur, aussi une formation beaux-arts classique, où j'enseigne maintenant d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un petit peu une sorte d'accident, on va dire, de mon parcours, mais que je ne considère pas non pas comme un exutoire, mais comme une forme de divertissement. Étant, donc, comme je le disais tout à l'heure, fonctionnaire de la fonction publique territoriale, sous le contrôle pédagogique du ministère de la Culture, j'ai un revenu régulier qui permet de payer des factures et de nourrir ma fille, donc j'ai pas besoin de ce statut d'auteur pour vivre. Donc pour moi, ça reste, et ça doit rester, un divertissement.
Oui, mais vous mettez quand même une sacrée dose de poil à gratter dans la série, avec des personnages qui sont d'une niaiserie absolument réjouissante, et je dirais, en exploitant tout ce qui est... tout ce qui est typiquement qui marche pas, c'est-à-dire imaginez un fauteuil, par exemple, pour les différentes formes de silhouettes de corps qu'on rencontre dans Star Wars, c'est quand même un exercice mentalement tout à fait intéressant.
Ouais, enfin, mentalement, là, j'ai fait une fois. Hein.
Ben non, il y a le siège qui ressemble au siège du boss, là, avec le petit bruit, mais c'est parfaitement, c'est tout à fait jubilatoire sur notre
truc. Ah oui, non, c'est très drôle, c'est vraiment très, très, très divertissant. Je vous conseille ce livre.
Moi aussi, surtout qu'il est quand même relativement facile à lire, parce que c'est essentiellement du dessin, et il y a très très peu, c'est vrai, et c'est une bêtise absolument...
Absolument, très 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 bon.
Et alors,
il pèse 500 grammes, il pèse 15 kilos.
Oui, il a une question.
Non, moi j'ai juste une petite question, c'est pas une question très drôle, mais par exemple, moi, avec les Schtroumpfs, j'ai pas pu reproduire des vignettes. Je peux pas reproduire les images. Est-ce que toi, t'es totalement libre?
Non. Vis-à-vis de Lucas, j'imagine.
Oui.
Ouais, vis-à-vis de Lucas, donc, s'agissant d'une parodie, clairement, j'ai pu m'approprier cette lumière-là et reprendre évidemment certains codes. En revanche, ce que je n'ai pas pu faire, les juristes se sont bien penchés sur le matériau avant de savoir ce que j'allais pouvoir faire. Et ce que je n'ai pas pu faire, c'est citer les personnages de la saga, qui sont des marques déposées en fait.
Donc ça veut dire que tu as fait une étude juridique avant le livre.
L'éditeur, avant de lâcher la bête, avant de faire le livre. Pour savoir ce qui était possible ou non de faire.
Donc tu as dû éliminer des dessins ou...
Non, j'ai écrit les textes. Ouais. J'ai écrit les textes pour que les noms des personnages ne paraissent pas. Mais okay. Sinon, j'ai eu toute la liberté.
T'as pas le droit d'écrire Yoda, t'as non. Pas le droit. Non, c'est sûr.
Il a prononcé Yoda.
Ah. Et donc ça va coûter une fortune au festival.
C'est mon maudit.
Je peux utiliser les noms communs qui ne sont pas des marques. Mookie, par exemple, je peux l'utiliser, mais je ne peux pas utiliser Chewbacca.
C'est marrant quand même parce que moi je suis exactement dans la situation inverse. Je n'ai pas le droit d'utiliser de visuel, mais tous les mots, tous les noms, des Schtroumpfs, aucun problème.
Oui, mais dans le cas particulier du visuel, là c'est un visuel redessiné. Toi, si tu utilises le visuel de Peyo, c'est-à-dire si tu fais la copie d'une image de Peyo, tu vas devoir payer des droits. Parce que tu exploites le droit de quelqu'un d'autre. Là, c'est il a tout redessiné lui-même. Parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut signaler, quand on fait l'humour, on est obligé de faire d'abord un gros boulot, le faire soi-même. On ne peut pas se contenter de piquer des trucs aux gens et de dire « voyez comme c'est drôle », on est obligé de les trouver drôles soi-même. Ce qui est un boulot absolument terrifiant. On se demande pourquoi les gens font ça. Parce qu'en plus, on est très mal payé.
Non, mais moi, j'ai juste fait du jeu de rôle.
Et vous parlez dans la présentation du site de la possibilité d'avoir des lesbiennes, vampires ou je ne sais quoi. Est-ce qu'en plus elles sont chatouilleuses, puisque c'est censé être drôle? Parce que ça peut faire des scènes tout à fait intéressantes.
Alors,
le côté guiligui, comme ça.
Personnellement, je publie la littérature humoristique, mais je n'en écris pas.
C'est un peu rigolo quand même.
Oui, un peu rigolo. Il y a mon dernier roman, Les petits meurtres, sont assez rigolos parce qu'en fait, justement, il est question de lesbiennes chatouilleuses qui sont très âgées, qui approchent les 80-90 ans et qui décident, qui commettent un meurtre par inadvertance et qui décident que finalement, c'est pas si mal que ça de tuer, même à 90 ans, et qu'on peut éliminer pas mal de problèmes en éliminant ses ennemis. Donc, et là, il est question de lesbiennes, oui, chatouilleuses et criminelles.
D'accord. C'est carrément arsenic et vieille dentelle, mais en jatouillant plus.
Voilà, et là c'est carrément tout un groupe de, pers- personnes âgées, de dames, de messieurs qui viennent se joindre au groupe pour assassiner sans surprendre.
Et il y a vraiment des recettes pratiques, parce que tu vois, c'est quand même le genre de truc qui peut faire un best-seller, par exemple, dans les maisons de retraite, et qui en plus éliminerait un certain nombre de...
J'espère aller dédicacer dans les maisons de retraite, qui vient de sortir, là, donc...
Et si ça a réellement une dimension pratique, et socialement, c'est quelque chose, justement, à se regarder au Sénat, parce que ça pourrait être une des réponses de tous les problèmes des retraites et des caisses de retraite actuelles.
Non, mais tout à fait, en plus, il y a des méthodes très sûres pour ne pas se faire prendre.
Tu ne penses pas qu'il y a un truc à étudier ?
En fait, j'ai pas du tout suivi parce que j'étais dans la guerre du retour contre-attaque et c'est vrai que c'est hyper drôle. Hein. Moi, je suis fan, hein, j'adore.
Est-ce que tu veux nous lire une page ?
En fait, ça servirait absolument à rien parce que c'est des gags visuels. Donc, c'est... merci pour la proposition et arrête de me faire parler du Sénat. J'ai rien à dire sur le Sénat, je m'en fous.
Mais attends, nous sommes dans une table ronde sérieuse sur laquelle nous essayons d'analyser les mécanismes qui ont pu vous pousser à vous lâcher complètement et à faire des choses qui sont censées être drôles. Bon. On a tous compris qu'on est à peu près tous des psychopathes dans l'âme et que la raison pour laquelle, dans le fond, on s'est complètement lâché, c'est que nous ne sommes pas très, très, très stables à l'intérieur. Mais quand même, je veux dire, à un moment donné, une espèce de vernis de sérieux, tu as un chef d'entreprise, tu as quelqu'un qui travaille au Sénat, moi-même, je travaille chez Airbus. Enfin, il y a véritablement une espèce de base de solide à partir duquel on a construit quelque chose de totalement délirant. C'est ça qu'il faut essayer de trouver. C'est qu'est-ce qui peut pousser des individus propres sur eux et relativement bien habillés, vous pouvez quand même le voir, hein, à se lancer dans ce genre d'activités dont on peut considérer qu'elles sont totalement infantiles et au demeurant pas drôles.
Alors, le vernis, moi je peux en parler parce que justement, moi je l'ai viré il y a quand même un petit peu de temps. Mais c'est le truc qui fait le plus de bien quand on arrive à s'en débarrasser. Donc, moi pendant longtemps, j'étais en fonctionnaire international aussi. Je faisais pas des trucs aussi sérieux, hein, mais j'allais à des réunions. Où les gens me regardaient avec un faciès grave comme ça pour dire « Oui, alors là, c'est plus possible, cette application, il faudrait vraiment qu'elle fonctionne. » Et moi, je revenais de concert où il y avait 5000 personnes qui avaient fait « Poulet, poulet, piou, piou, piou. » Et ça, c'est lundi matin, il est 8h et on arrive comme ça et les gens sortent, ils font « Ok, réunion, et là, c'est sérieux. » Et alors ça, c'est dur. C'est dur parce que moi j'avais envie de faire un piou 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 comme ça, mais je l'ai jamais fait.
En fait, je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Au contraire même, à mon avis, dans ton expérience, les moments les plus sérieux de ta vie, c'est poulet poulet piou piou piou. Non mais c'est vrai. Il n'y a rien de plus sérieux que l'humour et que le rire. Après, chacun le creuse selon sa personnalité, selon ses centres d'intérêt. Moi, quand je fais les schtroumpfs, évidemment, il y a un côté sérieux, il y a un côté analyse, il y a un côté que nous disent les œuvres populaires sur notre société, sur l'état de nos mentalités. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre notre imaginaire collectif et notre conscience, des choses dont on aimerait se débarrasser et qui habitent toujours nos inconscients? Donc ça, c'est des questions extrêmement sérieuses et je le fais en me marrant et en commençant par me foutre de ma propre gueule. Mais je crois qu'on peut aborder les choses le plus profondément qu'en commençant par rire, qu'en commençant par prendre ce recul, parce que sans recul... on ne peut pas vraiment le faire.
Justement, dans le domaine de l'imaginaire, alors là, je vais essayer d'être sérieux, puisque tu viens de l'être, après tout, je vous excuse. Il y a quand même des moments où il est totalement fondard de prendre un univers qui est un univers censé être un univers d'imaginaire, avec des fées, des dragons, des machins comme ça, et d'en faire quelque chose qui a été perverti parce que, par exemple, j'ai écrit une série de nouvelles, bon, c'est anecdotique, mais où le monde de la fantasy, celui des nains, des elfes, des trolls, etc., etc., est devenu un monde industriel comme le nôtre, c'est-à-dire qu'il y a des réunions de planning, il y a des, comment dirais-je, du concurrent engineering, et j'ai un personnage qui est un troll qui a été combattre le magicien noir dans les marais purulentes, machin, qui est obligé de refaire le parcours parce qu'il a oublié de demander les notes de frais, et que par conséquent, on ne peut pas lui faire un contrôle de mission tant que ce n'est pas terminé. Et donc, il est obligé de se retaper la totalité de la quête, mais cette fois pour faire les notes de frais. Et bien entendu, la plupart des endroits où il est passé, sont en ruine. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, parce que, par exemple, le nouveau propriétaire refuse de lui faire une fiche parce que c'était pas lui qui avait l'auberge, c'était le prédécesseur. Bon. Alors, il faut trouver des explications dans ces cas-là. Et c'est un vrai problème. Enfin, je veux dire, l'humour, dès qu'on commence à creuser un petit peu, on se rend compte que derrière, il y a une logistique, mais phénoménale. Il y a besoin d'effets spéciaux, mais c'est absolument dingue. C'est vrai.
Je suis d'accord.
Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'on est... D'abord, on n'est pas assez payé. Ça, c'est une espèce de notion absolument évidente. Je pense que nous serons tous d'accord à cette table. Vu l'argent que ça nous coûte et vu la quantité d'imagination que l'on a besoin de mettre, parce que sinon, écrire une histoire avec des mousquetaires, dire, tout le monde sait faire ça, mais la rendre drôle. Vous lisez Dumas, on se marre assez rarement. Il faut attendre les adaptations américaines, et encore, c'est totalement involontaire.
Oui, c'est parce qu'il manque Chuck Norris.
Ah, Chuck Norris. Est-ce que tu as vu la dernière de Chuck Norris? Chuck Norris est capable de compresser un CD en MP3 à main nue.
Ouais.
Il est fort, ce Chuck.
Je vous propose de faire une minute de silence en essayant d'avoir trouvé une idée drôle d'ici là, parce que moi j'ai de quoi tenir demi-heure. Puis après, là, ça va. Non, c'est à vous. Allez, lancez-vous. Racontez-nous quelque chose de drôle.
Ouais, je suis pas là pour de l'humour,
vraiment. Comment
ça, mais c'est marqué sur la fiche. C'est intéressant parce qu'en fait.
On
les élimine au fur et à mesure. Dès qu'il y en a un qui dit un truc pas drôle, en fait, on l'abat. Vous voyez, donc on est tous obligés de faire.
Alors moi, je veux bien l'abattre.
C'est le maillon faible.
Vous êtes le maillon faible pour le soir.
Je croyais que tu as des questions dans le public.
Est-ce que vous avez des questions dans le public? C'est vrai? Je vous rappelle qu'il faut essayer de conserver un sérieux de bon aloi et vous efforcer d'éviter tout débordement, en particulier de ne pas rire trop fort. Donc, quelqu'un a-t-il une question qui ne provoque pas une hilarité que je considérerais comme...
Il y en a qui ont des sourires en coin, là.
J'ai une question sérieuse.
Ah, ça me va très bien. Est-ce que quelqu'un peut donner un micro sérieux?
Bravo, il y a un physique qui compense, ça y est. Non,
il n'y a pas de
Voilà, toi. Alors, ouais, on vous a fait. Alors, pour les camarades qui écoutent cette émission en podcast dans quelques jours, on vient de faire un gag visuel.
Le livre sur les Schtroumpfs, tu es le seul à avoir écrit un livre sur les Schtroumpfs de ce style-là? Parce que je viens de Belgique, donc du pays des Schtroumpfs. Et la presse a été, mais horrible.
Et
il vous a décrit comme un universitaire ayant fait une thèse. Donc des gens en donnant sérieux, et comme tout était sérieux. Et là, je dois m'excuser, parce que j'ai fait une guerre contre vous, sur tous les forums, sans avoir le livre, uniquement avec les informations que j'avais su. Donc on peut confirmer qu'il n'y en a eu qu'un. Non, vous n'avez pas fait la parodie de quelqu'un qui avait fait une thèse.
Non, pas du tout. En fait, je n'invente pas la poudre quand je fais l'analyse d'une œuvre populaire. Ça fait longtemps que ça existe. Quand vous avez Bettelheim qui fait l'analyse des contes pour enfants, là déjà on entre là-dedans. Lui c'est dans une autre optique que la mienne. Moi c'est plus une optique de science politique et lui c'était une optique plus psychanalytique. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est fait et très fait. Par exemple, dans l'univers de la BD, on a beaucoup fait, ça vous le savez, Tintin ou Astérix. D'ailleurs, après ma polémique sur les Schtroumpfs, il y a Michel Serres qui a fait une polémique sur l'aspect franchouillard et pseudo-facho de Astérix. Alors lui, il était vraiment dans le jugement de valeur. Moi, pas du tout. En revanche, il est vrai que, étonnamment, rien n'était fait sur les Schtroumpfs eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est quand même une œuvre populaire qui a bercé plus d'une génération, qui est connue dans le monde entier, et pour lequel, non, on l'avait jamais consacré en lui accordant une analyse comme ça. Alors, ceci dit, moi, je fais la première monographie jamais consacrée aux Schtroumpfs en m'amusant, et d'abord en me moquant de moi-même, parce que quand on évalue la taille des Schtroumpfs à partir des pommes, c'est qu'on n'est pas très très sérieux. Mais disons que je suis sur le fil entre quelque chose qui est complètement potache, complètement délirant, complètement pataphysique, et en même temps qui est une analyse avec des choses assez sérieuses sur l'utopie, sur le décalage entre l'imaginaire collectif et la conscience. Et donc, il n'y avait pas ça, mais il y avait des intuitions éparses, multiples et variées, une galaxie d'intuitions qui ont conduit, par exemple, les États-Unis à se méfier énormément des Schtroumpfs, y voyant une sorte de propagande socialisante, communisante, une sorte de Voice of America, Voice of Russia. Ils ont lancé des contre-feux pour la jeunesse, contre les Schtroumpfs en particulier, des séries que vous connaissez peut-être comme Ricky ou La Belle Vie, où on voit qu'on peut être riche et en même temps hyper sympa, ou G.I. Joe sur le patriotisme du soldat. Tout ça, c'est des contre-feux qui déportaient la guerre froide sur le terrain des œuvres de jeunesse. Donc les Schtroumpfs, effectivement, ont fait l'objet de pas mal de méfiance, mais sans avoir fait l'objet, comme je l'ai fait moi, d'une vraie analyse approfondie.
Je ne suis pas sûr que le Grinch a été fait en réponse aux Schtroumpfs.
Desperate Housewives, c'est quand même une manière de montrer qu'on peut être Schtroumpfette et quand même avoir une vie.
Travaillant aussi dans l'aviation, je les ai un peu... Ceux que je n'ai pas compris.
Je disais Desperate Housewives... qui a quand même eu 8 saisons. Hein, je veux dire. C'est quand même une manière de prouver qu'on peut être une schtroumpfette et avoir une vraie vie.
La schtroumpfette est seule.
Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'elle commence à se reproduire, je veux dire, dès qu'elle cesse d'être Carla Bruni pour se mettre à chanter, par exemple, ben, à ce moment-là, on se rend compte qu'elle a véritablement une dimension. Et c'est à ce moment-là qu'on le regrette. Mais bon, c'est assez...
Ceci dit, ce que vous me dites, d'ailleurs, je vous remercie de ce que vous me dites, en me disant que vous m'avez mené une guerre, mais sans vraiment savoir, parce que vous avez relayé ce que vous aviez entendu par ailleurs.
Tout le monde disait ça.
Voilà,
il
n'y
a
ça.
Pas eu un seul
voilà,
point positif.
Enfin, quand même.
Je parle sur les médias belges.
Oui. Alors, en fait, ça c'est très intéressant parce que oui, moi j'ai fait l'objet d'une vraiment d'énormes attaques un mois avant que le livre soit sorti. C'est-à-dire par des gens qui n'avaient pas lu une seule ligne du livre et qui se seraient aperçus dès la première phrase que c'était pas ça, que c'était pas l'esprit. Puisque dès la première phrase, j'explique que Peillot n'a jamais voulu à mal, que lui s'intéressait pas du tout à la politique et que ce qui l'intéressait c'était de divertir le plus grand nombre, et quand vous voulez faire ça vous utilisez des images qui parlent à tous, et donc le travail sur les Schtroumpfs est un travail sur l'imagerie véhiculée par les œuvres populaires en général.
Bon ben je vais acheter le bouquin, le lire
et vous
je vais
direz.
Peut-être me faire pendre quand je rentrerai à Charleroi pour mettre
en vue l'ennemi,
mais on verra bien.
Vous allez réparer, vous réparerez.
Oui mais je risque de me faire tondre hein.
Et toi Thierry, est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'à un moment donné tu risques aussi de te retrouver condamné à participer à des tables rondes un petit peu minables comme celle-ci, justement pour essayer de réhabiliter un livre qui aura été descendu par tout le monde parce que tu t'attaques à un livre secret ?
À côté d'un mec qui a un t-shirt Star Wars.
Oui.
Oui. Non, il se trouve que là on parle de table ronde. J'étais invité à une table ronde dans un autre contexte la semaine dernière à Saint-Malo, dans un autre festival qui s'appelle Étonnant Voyageur. Et mon invitation là-bas m'a plongé dans un scepticisme. Je me disais, tiens, c'est marrant, mais que me veulent ces gens Enfin, je ne voyais pas du tout en quoi mon travail pouvait me valoir une place à une table ronde.
Est-ce qu'ils avaient des battes?
Batman.
Alors, en général, les Malouins ont des sabres. Mais bon,
c'est vrai.
Et
on t'avait peut-être invité pour faire le Malouin, justement. C'était un truc.
Ouais, je suis en train de faire le Malouin. Mais il se trouve que j'étais invité à une convention Star Wars du côté de Vichy en début d'année, au mois de février, et j'y allais avec. Donc là, je vais changer tout, je ne vais pas reprendre le scepticisme, ça serait beaucoup. Avec une certaine crainte, je m'attendais à trouver là-bas des fans de Star Wars assez intégristes, entre guillemets. Je me disais, mais là, la saga, comme ça, ponctuellement, quand même, je la prends, je la torche, je la tire. Peut-être qu'il y en a certains qui vont en vouloir, comme ça, de approprier ce truc et d'en faire un peu n'importe quoi. Et donc, quand les organisateurs m'ont invité, je leur ai dit, ben, moi, je veux bien venir, avec plaisir, je suis disponible et tout, je suis ravi. Je dis, mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je risque pas de faire un chier? Et en fait, l'accueil était extraordinaire. Je me suis rendu compte que même les mecs qui sont à fond dans Star Wars, ils adorent. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à la question. Je ne sais pas du tout.
Tu viens de faire rire les gens, donc a priori, je dirais oui.
Bon, mais très bien.
Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, pour avoir croisé beaucoup de gens dans ces domaines, par exemple, au niveau de l'humour Lovecraftien, parce que bon, on dit Lovecraft, déjà humour, on fait ah bon. Et en fait, les gens qui s'intéressent le plus à Lovecraft sont ceux qui font les trucs le plus drôles sur Lovecraft, à savoir notamment Boomy qui fait le Unspeakable Vault et la HP Historical Society aux États-Unis qui produit des disques des chants de Noël des grands anciens. Alors, ces des gens sont hyper sérieux, hyper littéraires, ils font du théâtre, ils font du théâtre lovecraftien, etc. Et ils pondent des chansons à se pisser dessus avec des chorales, des instrumentations de fous et tout. Ils sont tellement bien que de loin, on a l'impression que c'est des vrais chants de Noël. Sauf que ils sont très enjoués et ils racontent « Nous allons tous mourir, réduire l'esclavage », etc. Bon, en anglais, bien sûr. Et c'est intéressant, justement, parce que eux, c'est vraiment, c'est des fans de Lovecraft, ils connaissent tout, ils ont tout lu 10 fois, ils savent que tel personnage va apparaître dans tel truc, etc. Et en fait, quand on les rencontre, discuter sérieux, ça va 5 minutes. Et en fait, entre eux, ils font vraiment des grosses conneries. En plus, ils les partagent. Et j'ai jamais entendu personne qui soit fan de Lovecraft qui a pas aimé ce qu'ils ont fait, en fait. Donc je crois que tu n'as rien à craindre.
C'est vrai, oui. J'ai vu personnellement un groupe de reggae de Lovecraft où les mecs avaient leur dreadlock, qui était en fait ils avaient une espèce de tentacule sur la tête, là, mais pour faire des dreadlocks de reggae. Et ils chantaient effectivement ce genre de truc, mais en reggae. C'était à mourir de rire. C'était vraiment des trucs très bons. Non, mais pour ceux qui ont vu Fanboys, par exemple, qui est l'histoire d'un groupe de jeunes qui vont cambrioler le ranch de George Lucas pour que celui de leur copain qui va mourir du cancer puisse voir le film de Star Wars à temps, parce qu'il risque de sortir trop tard pour que lui puisse le voir. Et effectivement, il y a des bagarres d'intégristes entre les mecs de Star Wars et les mecs de Star Trek, où ils se foutent sur la gueule pour savoir si les Klingons sont meilleurs que les ceci et les ça. Et c'est vraiment d'une drôlerie relativement irrésistible. Et c'est bien passé dans le milieu, je veux dire. Et il y a même des films comme Galactic Quest, où on a la parodie totale de ce que sont les
feuilletons. Oh, Galaxy Quest. Galaxy Quest. Regardez les meilleurs films de science-fiction.
Never surrender, never give up.
Voilà.
Par le grand
marteau de notre. Pardon ? Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, parce que notre ami belge aime faire la Star Trek.
Oui, mais il aime Galaxy Quest.
J'adore Galaxy Quest.
Mais il aime les
Star
Wars. Donc voilà. Donc à la limite, pour te servir de garde du corps, il est très bien.
Oui ?
C'est ça,
ouais. Mais les mecs de Star Trek n'ont pas besoin des mecs de Star Wars pour se battre, parce qu'ils peuvent se battre entre eux, entre les fans du Capitaine Kirk et les fans de Jean-Luc Picard.
Ce qui est totalement illogique. Il devinait de qui je suis fan. Est-ce que... c'est quelqu'un qui agite un éventail. Il n'y a pas une question particulièrement, pour faire retomber un petit peu la pression et remettre un peu sur les règles du sérieux, je sais pas. Vous travaillez à la plume ou au pinceau, enfin un truc comme ça, non ?
Moi, je travaille à l'encre.
Travaille à l'encre, voilà.
Moi, je travaille ici.
Ah, ça explique le son de vos disques.
Je travaille peu.
Non, c'est une bonne idée aussi. Bon, bah écoutez, c'est terminé. Voilà, il nous reste encore un quart d'heure. Je sais pas, est-ce qu'on fait un numéro de claquette? On a improvisé un numéro de mime. Ce qui est vachement intéressant, c'est que comme c'est interviewé et qu'on est enregistré, qu'on sera sur le net, tout ce qu'on fait qui n'est pas verbal...
C'est vrai.
Tout ce qui est, oui, totalement, tout ce qui est visuel et tout ça, ils ne le voient pas. Donc, on pourrait faire une espèce d'immense farandole en faisant... Ah. Oui, et là, par exemple, personne ne l'a vu. C'est absolument génial.
Il y a ces gens à fourbe dissimulés avec une caméra ou un appareil photo. Ils ne m'auraient pas.
Rhabille-toi, John, c'est fini.
Donc, pas de questions. Bon, eh bien, écoute, il y a une question là-bas au fond. Bon, ça va, très bien.
Bon, ça va.
Tu nous sauves, non, parce que sinon, on est obligé de s'en aller pour aller boire un coup. Et là,
finalement, le sérieux dans l'humour, on a vite fait le tour.
Bon, c'est juste éventuellement, si vous connaissez Pratchett, je pense que oui, c'est Pratchett. Donc, si vous avez l'espoir d'être un jour aussi connu que lui et de toucher autant de monde, parce que c'est quand même lui qui fait beaucoup parler d'humour, donc surtout en Angleterre, effectivement, mais qui touche vraiment le grand public.
Oui, moi j'ai découvert Pratchett 5 ans après avoir commencé Neville Buck et j'étais vachement content parce que je me suis dit « Ouais, il y a d'autres gens qui ont de l'humour dans la fantasy !»
Non mais ceci, c'est vrai que c'est rare, hein. C'est pas les plus répandus, au moins dans la fantasy. Moi je connais pas extrêmement bien, donc peut-être que vous allez pouvoir me corriger, mais est-ce que dans ces genres-là, dans même les littératures de genre, c'est l'humour qui est le plus répandu. J'ai l'impression qu'au contraire, c'est très très minoritaire.
Bah, dans ce qui est dans le domaine du jeu de rôle en particulier, il y a eu quand même plein de jeux de rôle qui sont sortis où il y avait zéro humour. Quoi.
Bah, moi, des jeux de rôle vraiment humoristiques, je connais que Paranoia.
Oui, non, mais il y en a qui sont. Voilà, il y a des jeux humoristiques, il y a des jeux de rôle. Où il y a zéro humour, mais les gens, moi par exemple, j'ai commencé le jeu de rôle avec L'Œil Noir, qui est un jeu de rôle allemand. Il n'y a pas d'humour du tout. La première partie que j'ai faite, j'étais pété de rire du début à la fin.
Et est-ce qu'il y a un humour allemand ?
Je ne sais pas, c'est un autre sujet. Mais enfin, je veux dire, c'est un petit peu triste que quand on vit une aventure, il se passe forcément des trucs cons. Et qu'on le veuille ou non d'ailleurs, parce que quand on essaye que ça ne se passe pas, ça se passe quand même. Et il faut se demander comment ces gens font pour écrire. des bouquins où il se passe rien de drôle, bien qu'on soit dans l'aventure et qu'il y ait vraiment des potentialités de conneries à la minute incroyables, et ils arrivent à faire des sagas entières où il se passe jamais rien de drôle. Et moi, je trouve que ça, c'est fort.
Il y a, enfin, alors là, on va revenir un petit peu sérieux. Il y a eu plusieurs époques, en particulier aux États-Unis. D'abord dans les années 50, peut-être un peu avant dans les années 40, mais surtout dans les années 50, il y a eu une période assez importante où beaucoup de novellistes de science-fiction étaient des novellistes drôles. Et ils faisaient des textes, je pense à Robert Sheckley, Frederick Brown, etc., qui venaient d'autres domaines, mais qui faisaient des trucs qui étaient à vocation totalement humoristique pour se moquer du genre. Il ne faut pas oublier non plus que le terme de space opéra, à l'origine, c'était une insulte. Ça voulait dire, grosso modo, des bouquins de merde qui servent vraiment à faire vendre du savon. Comme à la radio, on avait des soap opéra qui étaient des séries de merde qui servaient à faire vendre du savon à la publicité. Voilà. Et donc, un certain nombre de gens revendiquaient le fait d'écrire des histoires qui étaient soit ouvertement humoristiques, soit qui comportaient une dimension humoristique importante. D'autre part, les Américains ont toujours eu une tradition, comme tu disais, de parodie, de...
Je me dis ça, mais...
Mais si, il y a un truc, par exemple, par rapport à Star Wars, ils ont une protection légale qui fait que si on fait une parodie, une vraie parodie, ben, légalement, on a le droit. On a le droit de faire une parodie de Harry Potter, on a le droit de faire une parodie du Seigneur des Anneaux.
On a le droit en France aussi.
En France, il y a un article... C'est le droit
à la caricature.
Le droit à la caricature, mais on n'a pas le droit de faire autant de choses que ce que font les États-Unis, par exemple. Les États-Unis sont parfaitement capables de publier une histoire dans laquelle vous avez un Dumbledore totalement obsédé qui court après Harry, qui lui court après n'importe quelle nana, etc. etc. Alors qu'en France, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit parce que l'auteur peut dire « Vous attaquez ce qu'est l'intégrité de mes personnages et par conséquent, vous faites une parodie, vous utilisez d'autres domaines, mais mes personnages, vous ne touchez pas. » C'est une chose qui est assez différente. Donc, aux États-Unis, il y a toujours eu une tradition, le journal Mad, le National Lampoon, un certain nombre de... émissions de télé, de radio, où ils parodient ouvertement tout un tas de trucs. Des parodies de films de science-fiction, de trucs comme ça. Il y en a eu très tôt. John Carpenter, on l'oublie, a commencé par, pendant ses études à l'université du cinéma, par faire un film de science-fiction qui s'appelait L'Étoile Noire, qui est une vaste blague avec des trucs, des scènes dont je me souviens encore, dont par exemple la bombe atomique qui va exploser, qui est un compte à rebours, et les gens qui discutent avec lui, parce que c'est une bombe intelligente, pour essayer de le convaincre que, mais non, il y a une vie, tu sais, ça vaut la peine de rester. Et la bombe qui dit, oui, mais je suis fait pour ça, il faut bien que je me réalise à un moment ou à un autre. Et l'autre lui dit, mais tu verras, tu ne connais rien du monde, il faut quand même que tu l'explores un peu. Oui, mais tu comprends, je le sens battre en moi, j'ai besoin de faire ça. Il y a des scènes extraordinaires de ce genre-là. Et c'était des parodies des films de cette époque-là, des films de science-fiction. Donc il y a une tradition côté américaine, il y a une tradition, on l'oublie aussi, côté anglais. Je rappelle qu'il y a un groupe bien connu qui a fait une histoire de fantasy sur le Graal au cinéma, qui reste, je crois, le film préféré des Anglais trois fois de suite, toutes générations confondues, ceux qui ont vu Sacré Graal s'en souviendront. Et eux, ils ont quand même fait énormément de parodies dans ce domaine-là, clairement, dans le Monty Python.
Plus dans la SF que dans la fantasy.
Oui, mais quand même, ils en ont fait dans un certain nombre de domaines. Il y a des gens comme Holt, comme, bon, on connaît Pratchett, mais il y en a plein qui en ont écrit. Et Pratchett n'est connu chez nous que parce qu'il est traduit. Il y en a toute une ribambelle qui ne sont pas traduits. On a essayé de les traduire quelques fois, ça a moins bien marché que Pratchett, donc on n'a pas continué. Bragelonne a publié quantité de parodies du Seigneur des Anneaux, de National Lampoon, des choses de ce genre. Il y a une parodie du Da Vinci Code qui mérite vraiment le détour chez eux. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas. Et surtout, il y a un certain nombre de gens. Vous prenez Mercedes Lackey, par exemple, qui est ici, qui a écrit un certain nombre d'aventures sérieuses, hein, des choses, etc. Il y a des bouquins qu'elle a fait où elle se lâche complètement. Parce qu'en plus, c'est une dame très drôle. Et il y a des moments où ça, je dirais, ça part bien en vrille. Bon. Et pas seulement des trucs où on se flanque des grands coups d'épée et où il y a une espèce de faction qui combat la faction, machin. Il y a des trucs quand même assez drôles. Et puis, il y a un truc aussi qui a rajouté beaucoup, c'est le hard rock. Le hard rock, qui est littéralement le hard rock et le gothique, tout ça, qui est littéralement sa propre caricature et qu'il a assumé depuis le début, a beaucoup, beaucoup rajouté sur cet aspect-là.
Ouais, en plus, il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont drôles dans le hard rock.
Mais ils vont te passer. Et alors, toi, dans le domaine de la musique, justement, parce que tu es quand même un musicien à la base, est-ce que.
Non, je joue des instruments. Après, le résultat. C'est un petit peu bizarre.
Mais est-ce que le milieu, quelque part, reconnaît ce que tu fais comme un travail musical ou comme un travail parodique ?
Je fais pas de parodie. Enfin, j'ai dû faire trois chansons qui sont des parodies sur tout le répertoire d'une album. Moi, j'écris ce qui se passe dans les aventures de nos héros. C'est pas de la parodie. En fait, la parodie, ce serait éventuellement de prendre une aventure qui existe et puis de la modifier. Mais moi, je prends juste des héros qui se barrent à l'aventure. Il leur arrive des trucs. Mais moi, quand je fais une partie de jeu de rôle, j'ai pas besoin de parodier. Ça se passe comme ça. Parce que un aventurier, enfin, le truc des personnages de Naruto, c'est que c'est des joueurs. Et donc, c'est pas des héros. Et un joueur, il a sans arrêt une idée stupide, toutes les 5 minutes. Tiens, alors cet ennemi.
C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Voilà, alors en fait, voilà. Tiens, il y a un ennemi qui est plus fort que toi. J'attaque. Bon. Voilà, c'est débile, mais c'est comme ça. Je sais, j'y ai vécu. Ou alors, tiens, il y a un levier qui dépasse du mur, c'est bizarre. Ouais, bah, je tire dessus. Quoi ? Voilà, et bon, les musiciens, bon, alors c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais des compétences musicales assez faibles, mais j'ai un très très bon contact sur la scène musicale, justement parce que les gens se rendent compte qu'on peut aussi faire de la musique pour se marrer, et que en plus, il y a des gens qui viennent nous voir, c'est vachement bien.
Mais est-ce que, par exemple, le fait d'entrelacer des chansons par des publicités sur des marchands d'armes magiques, ça s'est vécu comme une relation normale à la musique ou...
Faut peut-être pas par les autres. Bon, par nous, c'est un peu bizarre, parce que quand on a fait la tournée au Québec, on s'est rendu compte qu'on avait fait 14 000 km pour chanter les chansons de lessive. Donc là, on s'est un peu remis en question, mais ça a duré 30 secondes. Et après, je sais pas, les autres, bon, c'est vrai qu'on a...